D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Dandy. 1977, un temps de prospérité pour la France. Ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier n'avait pas encore été suivi de celui plus brutal de 1979. On se disputait pour autre chose que des idées transformées en magie et de là en possibilité de meurtre. On était sortis de ceux de la Deuxième Guerre mondiale depuis à peine 30 ans et on s'en souvenait. Les idées transformées en mots magiques servant à hérisser les guerres avaient été nation, race, prolétariat, de même qu'aujourd'hui nous avons, méfions-nous, identité. 1977, année où les monstres et les crétins ne s'appelaient pas Donald Trump, Narendra Modi, Viktor Orban et Vladimir Poutine, mais Mengistu, Éthiopie, Idi Amin Dada, Ouganda, Kadhafi, Libye, Pinochet, Chili ou Abu Daoud, le Palestinien, qui avait organisé l'assassinat des athlètes israéliens à Munich. On a découvert en 2016 qu'en plus de cela, ils avaient été battus et violés. L'anodin Jimmy Carter présidait les États-Unis. Léonid Brejnev ne faisait plus si peur, malgré les articles de Paris Match montrant des chars soviétiques sous le titre « En deux jours, ils sont à Paris ». 1977, un temps où les présidents de la République française, exerçant un mandat de 7 ans, plus long que celui des députés, les plaçaient au-dessus d'eux en prestige aussi. Sans parler du pouvoir, lequel n'avait pas encore été partiellement dévolu, pour notre bien peut-être, aux institutions européennes. Le président en exercice, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait le goût Louis XV, sinon Pompadour, haïssait l'art contemporain, au contraire de son prédécesseur, Georges Pompidou, qui le collectionnait. 1977. Henri-Georges Clouzot, le cinéaste, et Anthony Eden, l'ancien premier ministre anglais francophile, chose rare, meurent mi-janvier. Dans l'esprit des Français, ils vont vite être effacés par un fracassant événement, lui aussi culturel et politique. Cet événement, c'est l'inauguration d'un bâtiment. Ce bâtiment réunit un musée, une bibliothèque, un institut de recherche musicale. Eh bien, le centre Pompidou a failli ne jamais être construit et sa soirée d'inauguration, le 31 janvier 1977, ne jamais avoir lieu. Il avait eu à affronter une des guerres secrètes de l'humanité, la guerre des noms. L'îlot insalubre, choisi pour l'y construire par Georges Pompidou en 1969, faisait disparaître, en partie ou totalement, les rues dont les noms suivent. Rue des Vieilles Étuves Saint-Martin, rue de la Courroirie, rue Maubuée, rue Neuve-Saint-Médéric, rue Simon-Lefranc, rue Brismiche, rue de la Cour du Mort et le cul-de-sac Berthaud. Et cela, pour certains, cela avait été comme si on supprimait la France même, suivant le léger sentimentalisme de chantage qu'il y a dans le carillon de Vendôme, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. À la place, il y aurait Centre Pompidou, avec son air autoritaire de lieu nommé d'après le chef. Quel est le secret de l'inauguration du Centre Pompidou? 40 ans après, je reçois pour en parler celui qui a dirigé la communication du Centre pendant 19 ans, Jean-Pierre Biron. Jean-Pierre Biron, je voudrais, avant d'arriver à cette fameuse soirée d'inauguration du centre, que nous parlions dans la première partie de ce secret professionnel, des forces en présence et des artistes. D'abord, les architectes. Il y avait eu un concours, n'est-ce pas, pour l'attribution du...
Oui, un concours international qui avait fait parler beaucoup de lui parce que, justement, il mettait déjà un coup de canif dans les procédures habituelles de l'époque, à savoir un concours plutôt français. On parlait pas de concours européen de toute façon à l'époque. Alors ce concours avait de prestigieux parrains. Je veux dire par là les membres du jury. Vous pardonnerez si je ne les cite pas tous parce que je ne suis pas certain de ma mémoire. Mais c'était un jury qui était présidé par Prouvé, le célèbre Prouvé maintenant, qui est connu de tout le monde et qui à l'époque paraissait comme un homme assez, un ingénieur, on va dire, dépassé. Franchement, Prouvé était un personnage très méconnu à l'époque, très très méconnu. La fortune de Prouvé, qui aujourd'hui permet de vendre des meubles à des prix absolument colossaux, cette fortune était peu prévisible. C'était un homme estimé, c'était un homme reconnu, c'était un homme surtout aimé de tous les architectes justement internationaux. Des gens comme Philip Johnson, par exemple, qui était membre du jury, aimait beaucoup Prouvé et admirait son œuvre de bâtisseur aussi. Je pense à la Tour de Bel en l'occurrence. Et je crois que pour réunir un jury intelligent, autrement dit le mot étymologique, qui comprend ce qui se passe, avec l'enjeu qui était celui-là dans le programme architectural, le nom prouvé était évidemment une garantie, peut-être pas une garantie pour les architectes français, mais une garantie pour les architectes ou les personnalités internationales qui étaient membres du jury.
Et donc, la concurrence était vive. Est-ce qu'on sait de nos jours si les choix ont été très disputés à l'intérieur de la commission ou si Piano et Rogers ont gagné facilement?
Non, ça s'est pas passé facilement. Le témoin qui m'a le plus parlé des débats, c'est Michel Laclotte, qui est toujours parmi nous, et qui se souvient très bien qu'il y avait quand même si le projet Piano Rogers l'a emporté, il y avait quand même des débats. Ça s'est pas passé comme ça.
Qui plus est, ils étaient très jeunes, Piano et Rogers.
Alors, ils étaient très jeunes, ils n'étaient pas français, ils étaient une équipe de trois, deux Italiens, et parce qu'on oublie toujours de citer Franchini, le troisième, et un Anglais, tout ça n'était pas rassurant pour ceux qui allaient décider.
Donc à la fin, ils ont été choisis et immédiatement, comme on sait, enfin on connaît le projet de Piano et Rogers puisqu'il est réalisé et que c'est en gros pour être succinct, mettre le dedans dehors, et tout de suite ça a provoqué des hurlements, et même chez les gens supposés modérés, j'ai retrouvé un numéro du Monde de l'époque qui parle de viol, de King Kong architectural, et dès 77, Jean Baudrillard, qui est peut-être le premier des anti-modernes, dans l'effet Beaubourg, a accusé le centre de violer le lieu de secret que devrait être, selon lui, un musée, etc., etc. Donc ça a été très violent.
Très violent. La bagarre des anciens et des modernes, telle qu'on l'a appelée à l'époque sur ce projet, en fait, n'était pas toujours du côté de ce que l'on peut croire aujourd'hui. Il y avait des anciens qui étaient plutôt favorables, et qui étaient sensibles aussi à la nouveauté du concept, puisqu'il y avait quand même un concept derrière tout ça. Et puis il y avait des modernes, en particulier architectes, conservateurs, plasticiens, les trois catégories qui me viennent à l'esprit en ce moment, eux pouvaient être très hostiles.
Et vous, Jean-Pierre Biron, est-ce qu'à l'époque, vous faisiez partie, maintenant vous pouvez me le dire, vous n'êtes plus directeur de la communication du centre, est-ce que vous vous souvenez si à l'époque vous avez été heurté par le projet de, ou vous avez été contre ou pour le dire vite?
Franchement, moi j'étais pour, et j'étais pour deux raisons d'ailleurs, c'était que je trouvais que l'idée de ne pas isoler le Musée national d'art moderne, de le mettre tout seul quelque part dans un coin, si je puis dire, n'était pas... Le fait d'être seul n'était pas une très bonne idée dans un pays où, de surcroît, les collections qui se sont enrichies depuis de façon considérable, mais à l'époque, n'étaient pas des collections extraordinaires. Il faut se souvenir que le premier tableau de Matisse est rentré dans les collections nationales en 1950. Je pense que c'est une référence qu'il faut toujours avoir en tête pour s'apercevoir, aujourd'hui, quand on va... dans les espaces du centre et à l'étage des collections permanentes, de voir l'ensemble de Matisse qui y est présenté, avec des chefs-d'œuvre absolus.
On oublie beaucoup dans cette affaire-là qu'il y a eu aussi une résistance passive effrénée, je crois, celle de l'administration, puisque vous parlez du projet, c'est un projet singulier, ça n'est pas seulement un musée, je l'ai dit, il y a aussi une bibliothèque, un institut de recherche musicale, et chacune de ces institutions dépendait d'autorités différentes. Le musée dépendait du ministère des Affaires culturelles, la bibliothèque, à l'époque, du ministère de l'Éducation nationale, et l'IRCAM était indépendant, et on sait, j'ai pas besoin de le rappeler, l'amitié qu'il y ait Pierre Boulez et Landowski qui dirigeaient la musique. Donc je crois que l'administration elle-même en dessous a été très réticente.
Je crois franchement que l'administration n'a pas tout à fait compris ce qui se passait là. Il y avait une incompréhension d'un projet qui dépassait très largement les normes disons du ministère des Affaires culturelles. Malraux avait, je crois, proposé à Georges Pompidou un projet décentralisé, c'est-à-dire à la Défense, puisqu'il considérait qu'il fallait peut-être mettre quelque chose de moderne dans le lieu qui était moderne, la nouvelle partie de Paris, le centre des bureaux, le nouveau centre des bureaux, etc. C'était une idée qui était probablement pas fausse, mais c'était très contraire à l'idée de du président Pompidou, qui, il l'a raconté mille fois, passait devant la rue du Renard, passait rue Beaubourg et rue du Renard avec sa voiture, et voyait ce grand terrain vague. Je crois que vous avez cité tout à l'heure les noms qui ont disparu, les noms des rues qui ont disparu. Elles n'ont pas toutes disparu. La rue Brismiche existe encore.
Non, je dis toutes ou partie disparu.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, c'est le Paris du Moyen-Âge. Paris qui avait été, quand même, cette partie de Paris avait été éventrée par la création de la rue du Renard et d'un côté de la rue Sébastopol de l'autre côté. Donc, c'était un îlot au sens propre du terme entre deux axes extrêmement utilisés par les voitures. Et il y avait un grand parking, là, un terrain vague avec un grand parking. Je dois dire que quand le président Pompidou a su que ce lieu était destiné à la Bibliothèque nationale de France, ça a forcé encore un peu plus sa conviction de créer quelque chose et de le créer, par chance, sur des bases déjà, pour lui, pluridisciplinaires. Ça s'imposait par le fait même que ce terrain était destiné à une bibliothèque. Prenons un autre exemple, prenons l'exemple de la voiture. On vilipende aujourd'hui les projets que Pompidou a mis en route pour Paris à l'époque, mais peut-être que son esprit de modernité, à tout prix, mais il était un homme quand même très équilibré, l'a peut-être égaré sur certains domaines. Il a regretté les Halles, il a expliqué pourquoi il a regretté les Halles.
Les voies sur berge, c'était pas si mal. Moi, je regrette beaucoup la fermeture des voies sur berge.
Moi, je fais pas que la regretter. Je pleure tous les jours. Et encore en venant ici, je la pleurais trois fois. À trois lieux. C'était quelque chose qui était, contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas pour, adapter la ville à la voiture. C'était pour faire en sorte ce que doit être une ville. C'est-à-dire la cohabitation, la juxtaposition. De tout et de tout le monde.
Quand êtes-vous arrivé positivement comme directeur de la communication ?
Alors, j'ai connu les équipes, j'ai travaillé avec eux, et comme j'étais dans un organisme parapublic qui s'occupait de l'esthétique industrielle, autrement dit du design, puisqu'on ne faisait pas dire design à l'époque, ou très peu, qui s'appelait le Conseil supérieur de la création esthétique industrielle, on avait eu des bureaux tout près des programmateurs et des gens qui programmaient le centre de création industrielle, c'est-à-dire ce secteur-là. Donc moi, j'avais une espèce d'osmose naturelle et je connaissais très bien les gens qui travaillaient à ce moment-là pour le centre de création industrielle. Ensuite, j'ai quitté le 35 boulevard de Sébastopol et je suis allé dans une autre maison compliquée qui s'appelait la SFP, qui était due à l'éclatement de l'ORTF, où là, un président, Jean-Claude Grince, pour ne pas le nommer, est venu me chercher pour reprendre la partie audiovisuelle du centre Pompidou, car il y avait, chose qui aujourd'hui paraît aussi assez extravagante, il y avait à ce moment-là, au centre Pompidou, une cellule d'environ 30-35 personnes, voire plus par moment, consacrée à l'audiovisuel, puisque c'était le premier bâtiment au monde câblé, non pas câblé comme on l'entend aujourd'hui, mais câblé pour la vidéo, c'est-à-dire que tous les étages, tous les lieux pouvaient recevoir des programmes vidéo à la demande. Alors évidemment, c'était là encore très prémonitoire, puisque les moyens techniques ne permettaient pas, comme on a aujourd'hui, de la vidéo à la demande. C'était évidemment impossible. Mais dans les expositions, il y avait un arsenal, ceux qui s'en souviennent, des Paris-Paris, Paris-Moscou, Paris-New York, etc. New York, la première exposition pluridisciplinaire, là aussi. La part de l'audiovisuel était colossale, mais colossale.
Nous allons maintenant entendre un extrait d'Interactualité du 31 janvier 1977, c'est-à-dire juste avant le début de la cérémonie officielle d'inauguration du centre.
C'est demain soir à 21h que le président de la République, accompagné de Madame Giscard d'Estaing et de Madame Pompidou, inaugurera le Centre d'Art et de Culture Georges Pompidou sur le plateau Beaubourg, à deux pas de l'hôtel de ville.
Je ne suis pas contre et je ne peux pas dire que je trouve ça vraiment laid. Mais inversement, je ne peux pas dire non plus que je suis très emballé.
Je suis déroutée, mais enfin j'essaye de me persuader qu'il faut que je me détache de tout ce que j'ai aimé jusqu'à présent et j'essaye de voir en quoi ça peut être intéressant.
Ça va peut-être être fonctionnel, ça rendra certainement des services, mais pour l'aspect extérieur, c'est vraiment pas beau. Hein. Ça vous Ah, je sais pas, moi ça... Ah, ça vous démolit.
En toute sincérité, je suis déçu. C'est un amas de ferraille. Sur le derrière, vous avez des espèces de cheminées de paquebots. Le devant, il y a des espèces de chenilles qui montent. Ça donne cette impression-là.
Très bien. Très
Pourquoi
bien. Parce qu'il est très moderne et j'aime beaucoup le moderne.
Vous trouvez ça joli?
Très joli, très joli. Ses couleurs, tout.
Ouais, moi, j'aime bien.
Moi, je trouve que c'est assez dégueulasse.
L'usine Pompidou, c'est une usine de tuyauterie en tout genre. Hein. Ah, faut aller voir chez Renault, c'est presque mieux.
Je trouve que c'est une bonne chose. J'irais même jusqu'à dire que c'est magnifique.
Claude Pompidou.
Il voulait, avant toute chose, je crois, que l'art, en particulier la peinture, reviennent à Paris, parce que c'était un petit peu échappé vers d'autres pays au moment de la guerre. Il a pensé d'abord à faire un musée d'art tout à fait actuel. Et ensuite de ça, il a pensé qu'il fallait y adjoindre également l'art, ce qu'on appelle l'art moderne, pour un petit peu conforter les gens qui ne sont pas absolument habitués aux œuvres telles que celles qui sont réalisées maintenant, qui sont souvent un petit peu déroutantes au premier abord. Alors les œuvres du musée d'art moderne habituent les gens et les confortent en quelque sorte, et les préparent à voir l'art d'aujourd'hui. Il avait toujours eu une prédilection pour les arts plastiques, puisque, on l'a dit 36 fois d'ailleurs, il avait acheté La femme sans tête alors qu'il avait 18 ans, La femme sans tête de Max Ernst. Donc il avait une attirance vers les arts plastiques en tout cas.
Mais à répéter ce genre d'exemple, on pourrait croire qu'il n'avait que ce genre de préférence. Il avait une ouverture, je pense, artistique aussi bien vers le classique.
Ça, absolument. Depuis les artistes qui avaient fait les dessins préhistoriques jusque maintenant, de tous les temps, à travers tous les temps. Et si nous n'avons pas de tableaux célèbres classiques, c'est parce que ça coûtait trop cher à acheter, tout simplement.
Jean-Pierre Biron, il y a 40 ans, vous vous trouviez à quelques très peu de kilomètres d'ici. D'ici, c'est la maison de la radio, pour la soirée d'inauguration du Centre Pompidou. Et je voudrais que vous me racontiez quelque chose sur la hauteur du Centre Pompidou, car l'endroit où nous sommes, la maison de la radio, qui a été dessinée par Henri Bernard et inaugurée 14 ans avant le Centre, en 1963, a vu sa tour raccourcie. On dirait qu'il y a une espèce de concurrence phallique entre le pouvoir politique et l'imagination architecturale.
C'est pas faux. D'ailleurs, la ville de Paris et les habitants de Paris ont toujours eu un rapport extrêmement étrange avec la hauteur. Il y a toujours eu un refus de principe avec ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire des compromis. Ici, on a raboté la tour, et le Centre Pompidou a été raboté aussi, ce que peu de gens savent, d'un étage. Ce qu'on comprend mieux quand on voit la maquette, d'ailleurs, et quand on regarde le centre, si on imagine un étage de plus, on voit que la proportion du bâtiment aurait changé complètement. Or, cette hauteur n'a pas plu.
Est-ce à que qui
ça n'a pas plu aux plus hautes autorités de l'État.
Ça n'a pas plu à celui que je citais tout à l'heure, qui est Giscard.
Oui, je crois que Giscard était tout à fait contre. Giscard, qui a par ailleurs sauvé la gare d'Orsay, il faut le rappeler quand même, par moments, ces choses-là. Je suis convaincu qu'il y a eu de fortes pressions pour, en effet, à un moment donné, arrêter les travaux, et que la suppression d'un étage est peut-être le compromis qui a été justement trouvé pour finir. Et aujourd'hui, on a la polémique récente sur une tour dans le 13e, qui est un projet de Madame Hidalgo, a fait ressurgir les pour et les contre. Le bâtiment de piano, tiens, on le retrouve pour le nouveau palais de justice au nord-ouest de Paris, a fait ressurgir aussi des débats. Les Parisiens ne supportent pas la hauteur. Sans parler de ce qui se passe en face de la Maison Ronde. À savoir, tout l'espace du 15e, lui particulièrement raté, faute d'audace.
Ce qui n'est pas mystérieux, c'est que Chirac, qui était Premier ministre de Giscard, a bataillé pour le projet. Il y a un débat à l'Assemblée nationale de décembre 1974, qu'a trouvé Daphné Abgral pour nous, où Chirac prend la parole pour défendre vivement le Centre Pompidou en projet dès ce moment-là, et disant que Pompidou, lui avait dit « Je suis frappé du caractère conservateur du goût français, particulièrement de ce qu'on appelle les élites. Je suis scandalisé de la politique des pouvoirs publics en matière d'art depuis un siècle et c'est pourquoi je cherche à réagir. Donc, je vous dis ça, pas pour venir en arrière, mais pour dire aussi que, et ça a été une chose très notable dans l'histoire politique de la France, c'est que le Centre Pompidou a été un lieu pompidolien et chiracien et ça a compté dans l'histoire culturelle du pays.
Qu'il est chiracien.
Je ne veux pas dire que c'était un lieu de droite ou politique, mais ça
non,
a été...
J'entends bien ce que vous voulez dire, mais oui. Mais d'ailleurs, s'il n'avait pas eu cette volonté, ça ne serait jamais arrivé. Aucun gouvernement au sens large du terme n'aurait... D'ailleurs, vous remarquerez que tous les projets sont des projets présidentiels. La Bastille, la pyramide de Paye, le Quai Branly, etc., etc. Ce sont des projets personnels. C'est la politique personnelle. D'ailleurs, je remarque qu'on dit toujours, mais tel président n'a pas eu de grand projet. Voilà, je fais allusion.
Est-ce que vous voulez me dire un mot, Jean-Pierre Biron, de quelqu'un qui a compté après la réalisation du Centre Pompidou et pendant des années, qui était Madame Pompidou?
Oui, évidemment, elle a compté, mais dans le très bon sens du terme, car c'était quelqu'un qui n'est jamais intervenu dans une nomination, dans un projet, dans une manifestation, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui avait un regard amoureux sur le Centre Pompidou, assorti, comme quand on est amoureux, d'une bienveillance non dissimulée. Alors parfois, il y avait des choses qui la choquaient.
Pardon, elle avait gardé une fonction officielle ou
non,
pas?
Aucune fonction officielle. D'ailleurs, elle n'aurait jamais voulu, et puis il n'y avait aucune raison. Ça aurait été une usurpation d'un pouvoir qu'elle n'avait pas, d'ailleurs. Mais elle avait... D'ailleurs, son bureau, c'était assez amusant, mais le bureau de sa fondation, qui était rue du Louvre, les fenêtres de son bureau donnaient sur le Centre Pompidou, au loin. Elle avait un œil dans tous les sens du terme. Et elle avait, encore une fois, cette bienveillance efficace. La donation Kandinsky, qui a été une chose extraordinaire pour le Centre Pompidou, est en grande partie due aux relations qu'elle avait avec Nida Kandinsky, etc., etc. Elle a fait venir les collectionneurs, les grands donateurs. Je ne parle pas des donateurs qui, parce que vous l'avez pas, vous n'avez pas fait allusion, mais il y a eu quand même une fronde des donateurs aussi. Les grands donateurs qui sont restés pendant quelques années, jusqu'en 1985, qui sont restés au palais de Tokyo. Quand je dis grands donateurs, c'est les grandes familles qui avaient donné, je pense à la famille Lawrence par exemple, il y avait un fonds Lawrence extrêmement important.
Vous parlez des héritiers d'artistes, hein, n'est-ce pas?
Oui, des héritiers d'artistes. Et ils ont freiné des cas de fer. Eux ne voulaient pas être justement mêlés, mais qu'est-ce que c'est qu'un musée, il va être bouffé par le reste. Je dis bouffé parce que c'était vraiment le mot, comme si c'était un gros porc qui allait dévorer le petit musée.
Jean-Pierre Biron, pour finir, il y a 40 ans, vous étiez donc à cette soirée, et je voudrais que vous me disiez comment ça s'est passé. Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il y avait la garde républicaine, puisque Giscard était là? Je crois qu'il y avait le roi des Belges. Qui avez-vous vu? Est-ce que c'était amusant? Est-ce que c'était... Faites-moi un peu d'histoire parisienne.
Il y avait une chose... Tout le monde voulait aller à l'inauguration du Centre Pompidou. Ça, c'était déjà une chose assez étrange. Et je pense que là, peut-être que les dirigeants de l'époque avaient eu peur qu'il n'y ait pas assez de monde et avaient envoyé pas mal d'invitations. Alors, sa invitation avait une chose particulière que je n'ai jamais revue depuis, qui, je pense, ne se refera plus jamais, qui était que l'inauguration avait lieu à 21h.
Ah, c'était très tard.
Je ne connais pas d'endroit officiel qui ait été inauguré à 21h. J'ai apporté là, d'ailleurs, le carton d'invitation.
Et pourquoi, d'après vous? Pour pouvoir illuminer le centre?
Je pense que c'était sûrement pour plusieurs raisons, la sécurité, les derniers vis à planter, à tourner dans le bois, je ne sais pas, enfin des choses assez étranges. Et peut-être aussi pour dire que, après tout, ce qui n'est pas faux, une grande soirée pour inaugurer un bâtiment de cette importance, c'était pas si mal, plutôt que dans la journée qui banalise un peu l'affaire. Mais à 21h, une fois, c'était rare.
Le carton que vous avez apporté porte-t-il la mention du président de la République qui nous convie? Parce que c'est assez ironique, c'était Giscard, le président.
Absolument.
Et ben voilà. Et donc...
La formule est la suivante, elle est amusante d'ailleurs. Le président de la République procédera à l'ouverture du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. Certains ont oublié d'ailleurs cette formule, à laquelle moi je tiens énormément.
Laquelle?
le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, c'est le nom et non pas le Beaubourg, comme beaucoup trop de gens ont l'habitude. On ne change pas le nom de quelqu'un. Vous vous appelez Danzig, je m'appelle Biron, je n'ai pas l'idée de changer mon nom pour faire plaisir à une administration. Le lundi 31 janvier 1977, à 21h, il prononcera un hommage au président Georges Pompidou. Et en dessous, dans un corps plus petit, François Giroud, secrétaire d'État à la culture, Robert Bordaz, autre personnage extraordinaire à qui le centre doit beaucoup, beaucoup de choses.
Quelle était sa fonction ?
Président du centre. Il avait été le président de l'établissement public constructeur, et quand le centre a été créé, il est devenu président du centre. Prie M. X, Mme Y, de leur faire l'honneur d'assister à cette cérémonie. Voilà, donc c'était assez étrange.
Et donc, il y avait, comme on dit, la cour et la ville, il y avait tout le monde, c'était un...
Il y avait la cour et la ville.
Où les gens se regardaient.
Oui, non, oui et non. C'était un événement considérable, mais la cour et la ville, non. Encore une fois, les gens qui n'étaient pas pour,
ils sont pas venus.
Ils sont pas venus, ceux qui n'étaient pas
pour. À part pour, Giscard, vous voulez dire.
Giscard, c'est lui qui invitait, c'est une autre histoire encore, il est obligé d'être là. Mais, non, c'était à la fois très sympathique, c'est une atmosphère formidable de fête, mais une fête un peu gâchée quand même par tout ce qui s'était passé avant, par tous les éléments perturbateurs dont je parlais tout à l'heure. J'ai dit éléments perturbateurs, c'est pas des personnes, c'est l'état d'esprit. Mmh. Je parlais des donateurs, je parlais des artistes, des architectes.
Et le musée était ouvert déjà, c'est-à-dire que les invités ont pu se promener
bien
dans
sûr, la... Bien sûr, bien sûr. Les invités sont montés dans les étages et ont visité l'ensemble des étages. Le musée, la bibliothèque, l'IRCAM, non. Parce que l'IRCAM n'était pas dans le bâtiment exactement, vous savez, il faut sortir, et là c'était quand même assez compliqué. Et les invités de prestige qui étaient là, en effet, vous avez cité le roi et la reine des Belges.
Et dans l'ensemble, vous avez le souvenir que les gens étaient plutôt éblouis, apaisés, contents,
étonnés. Il y avait quand même, encore une fois, maintenant c'est tellement dans le paysage que tant le bâtiment à l'extérieur que le bâtiment à l'intérieur... je pense qu'on ne se rend pas tout à fait compte de ce qu'a été cette aventure du Centre Pompidou, qui a duré, au fond, 10 ans.
Jean-Pierre Biron, pour finir, le secret professionnel de cette inauguration du Centre Pompidou, n'est-ce pas que on regrette un temps où il y avait des querelles sur les nouveautés architecturales, dans un temps où Paris n'a plus l'air que d'être le vieux Paris où on restaure des choses ?
C'est en effet quelque chose qu'on peut regretter. Je le sens non pas avec une sorte de nostalgie, parce que il se trouve que dans ma vie j'ai été aussi directeur de l'école d'architecture et j'ai vu que à quel point l'architecture était peu estimée et peu comprise. Il suffit d'ailleurs de se balader un peu dans la campagne, de voir ce qui s'y passe, etc., etc. L'appel à un architecte est rare. On s'en méfie, les exemples abondent de maisons construites sans escalier, etc., etc. L'architecture n'est pas un art noble pour les Français. C'est une chose qui me désole, et c'était comme ça il y a 40 ans, il y a même 50 pour moi, avec le recul, peut-être même plus, sûrement plus. Et maintenant, c'est une sorte de catastrophe, sans parler de la réglementation des monuments historiques, etc., etc., etc.
C'était Secret professionnel, le 246e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des écrivains qui changent de langue. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgras, prise de son Manuel Couturier, recherche INA Aude Vassan. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.